France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, pourquoi une telle défiance envers les médias ? Le dernier baromètre du journal La Croix est sans appel. Les Français ont de moins en moins confiance dans le travail des journalistes. Pour ce qui est de la télévision, la chute est vertigineuse. C'est 10 points de perdu en un an. Avec 38% seulement des personnes interrogées par l'Institut Kantar-Sofres qui lui font confiance, 8 points de moins pour la presse écrite à 44% et 6 points de moins pour la radio qui fait le moins mauvais résultat, on va dire, en recueillant la confiance d'une personne sur deux. Le paradoxe de cette histoire, c'est que dans le même temps, l'intérêt pour l'actualité, lui, est reparti à la hausse. Résultat, les Français continuent de regarder la télé pour s'informer, même s'ils doutent de ce qu'on leur montre. La crise des Gilets jaunes est venue le rappeler, et de quelle façon ? Les journalistes qui sont sur le terrain depuis 2 mois et demi ont fait face parfois à une véritable hostilité et dans les cas les plus graves, à des insultes, des menaces, voire des coups. Ce qui nous interpelle, c'est que 23% des sondés jugent cette hostilité justifiée. Alors pourquoi une telle méfiance ? Pourquoi une telle défiance à l'égard des médias ? Pour en parler avec nous ce soir, François Hernenwein, rédacteur en chef à La Croix. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et Philippe Randé, chef du service reportage de France Inter. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Claire.
On attend bien sûr vos appels à tous au 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite un premier appel, celui de Christophe qui est en ligne. Bonsoir Christophe. Ce n'est plus Christophe, c'est Georges qui est à Auray. Bonsoir.
Oui. Bonsoir France Inter et bonsoir Monsieur Hernenwein que j'écoute tous les dimanches soirs sur Les Informés. Voilà, il y a de plus en plus de communicants et de moins en moins de journalistes. De plus en plus de papiers glacés que d'articles de fond, d'ambition que de conviction. Donc les Français ont l'impression d'assister à une comédie bourgeoise et élitiste, dont Monsieur Macron est un des acteurs principaux. À ce titre, j'aurais dit que M. Hanouna, qui est l'ami de M. Macron et Marine Schiappa, c'est un peu le mélange des genres qui trouble le paysage médiatique. À mon avis, la démocratie, c'est pas une kermesse ou une rigolade entre camarades. C'est plus sérieux que ça. Et donc, quand j'écoute M. Hernenwein le dimanche soir, j'ai vraiment un plaisir à l'écouter. Même si des fois, il n'est pas d'accord, bon, moi, il va sur des sujets de fond, il creuse le sujet. Et c'est pas un communicant comme des fois j'écoute Hémisphère droit. Ça me gêne beaucoup. Voilà, je voudrais des journalistes de fond. Voilà, des thèmes de fond. Voilà.
Vous êtes vraiment sévère, Georges.
Sévère, je sais pas, mais j'ai pas la télé, donc j'ai pas envie de m'embêter avec la télé. Je vous écoute souvent, France Inter, France Culture, Culture Monde ou Dimanche et après.
Donc et pour vous, le sondage de La Croix, il recoupe ce que vous pensez ?
Ah, je pense. Donc j'ai des amis. Mes amis, donc, ils partagent, ils pensent que les médias sont achetés par le pouvoir. Je pense pas que c'est... Le problème, c'est qu'à Paris, il y a des journalistes qui sont importants, qu'on voit souvent, comme Bruno Jeudi, et d'autres, ceux qui font leur travail en province, qui sont plutôt précarisés, qui touchent peut-être le SMIC, j'en connais, et ceux-là, ils font leur travail de base. Et on assimile tout. On pense que ceux d'en haut et ceux d'en bas, c'est les mêmes. Et c'est vraiment deux catégories différentes de journalistes. Faut pas les mélanger. Mais le problème, quand on voit à la télé des gens qui... dans une émission qui est d'amusement, on voit une ministre pas se prostituer, le mot est peut-être un peu fort, venir là. Je pense que c'est un peu mélanger genre, quoi.
Bon,
les gens, même s'ils s'amusent, ils trouvent pas ça drôle à la fin, je pense.
Merci, voilà. Merci beaucoup, Georges, pour cette entrée en matière qui reflète, François Hernenwein, ce que vous avez pu constater de votre enquête au journal La Croix.
Ce point de vue recoupe parfaitement ce que dit le sondage à différents moments du sondage d'ailleurs. Il y a un point sur lequel je voudrais insister. Le sondage est barométrique. C'est la 32e édition. Donc, il mesure sur la longue durée l'opinion des Français, la question de l'indépendance qui était au cœur de l'intervention de cet auditeur. Et ce qui est frappant sur cette question de l'indépendance par rapport au pouvoir politique, par rapport aux pouvoirs économiques, dans les deux cas, il y a plus d'une majorité de Français, une majorité très significative, plus de 60%, qui considèrent que les médias et les journalistes ne sont pas indépendants par rapport au pouvoir politique et par rapport aux pouvoirs économiques. Cette question, elle est constante, elle est mesurée à travers le baromètre depuis les débuts du baromètre. La question qui est posée, c'est aux journalistes eux-mêmes, interpellés par cette remarque des Français, de poser des actes signifiant clairement leur indépendance par rapport aux puissances d'argent ou par rapport au pouvoir politique. Et ça, dans la pratique quotidienne, c'est très facile à faire. Il faut donner des gages d'indépendance, il ne faut pas accompagner le storytelling de tous les pouvoirs dans le champ économique comme dans le champ politique, faire un travail de terrain, comme c'est évoqué par cet auditeur, c'est tout à fait sur le terrain qu'on se rend compte des choses.
Christophe Deloire, vous partagez ce point de vue ?
Mais il y a une forme de paradoxe du public. Le monde des médias, naturellement, il est traversé d'influences. Il y a les influences sociologiques sur les journalistes. Il y a les influences économiques qui peuvent être importantes, qui n'empêchent pas que les journalistes, y compris dans des groupes possédés par des hommes d'affaires, puissent jouir d'une autonomie parfois assez forte, parfois plus faible, mais qui ne les empêche pas nécessairement de travailler. Il y a l'influence des influences culturelles, liées notamment pour les journalistes à leurs convictions déontologiques. Et puis il y a l'influence du public, qui influence beaucoup plus qu'on ne le croit les médias. C'est-à-dire, on a tendance parfois à prendre, quand on entend les critiques des médias, à considérer que le public serait l'otage des journalistes, mais de fait, le public a un pouvoir énorme sur les journalistes, qui dans les rédactions sont tout à fait obsédés. Donc souvent, le public reproche au fond aux médias, lui fait des reproches qui concernent ses propres intérêts, parce qu'au fond, on est dans un pays, la France, qui n'est pas comparable aux dictatures, où il y a un pluralisme. Donc si le public souhaite aller vers d'autres types de médias, d'autres formes de détention capitalistique, d'autres lignes éditoriales, il en est tout à fait libre. Donc, chacun doit s'interroger sur les raisons pour lesquelles, finalement, on est tous dans le même bain. On n'est pas dans une forme de face-à-face, mais chacun entretient l'autre. Et puis, il y a des formes de contradictions supplémentaires. Par exemple, on entend beaucoup que les journalistes devraient moins porter leurs opinions. Jean-Luc Mélenchon dénonçait de manière... j'ai beaucoup abondamment critiqué ses propos sur la haine des journalistes, mais il y a quelques années, il dénonçait une forme de caricature médiatique en disant « vous donnez trop vos opinions ». Ce qu'on peut parfaitement comprendre. Moi-même, quand je dirigeais le centre de formation des journalistes, une école de journalistes, je me souviens, la première phrase que je disais aux élèves, c'était « vos opinions, on s'en fiche, vous n'êtes pas là pour ça, vous n'avez pas de valeur ajoutée à donner votre opinion, vous n'êtes pas plus légitime que n'importe qui ». Mais au fond, quand on regarde aujourd'hui encore les comportements du public, il va vers des médias qui portent des opinions. C'est un peu l'histoire du public qui veut voir seulement Arte, puis qui en fait va voir d'autres chaînes. Et même, vous le disiez d'une certaine manière, il va vers des médias
auxquels il ne croit
pas. Il affirme ne pas avoir confiance. Bref, ces questions, désolé de terminer cette introduction comme ça, mais elle est plus compliquée qu'il n'y paraît.
En tout cas, Georges disait comédie bourgeoise et élitiste. Moi, je voudrais avoir l'avis de Philippe Randet, chef du service reportage de France Inter. Philippe, vous qui êtes quelqu'un de terrain, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous vous dites ? Vous dites, ok, c'est pour ceux qui font les commentaires, c'est pas pour ceux qui sont sur le terrain ?
Non, je me dis que les gens ont envie de dialogue, tout simplement. Les gens ont envie qu'on discute avec eux. C'est vrai que parfois, quand on va en reportage, moi j'ai fait 15 ans de reportage en France et à l'étranger, parfois on est pressé et parfois on va voir quelqu'un pour faire une interview, on reste 10 minutes et puis on repart monter notre reportage, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens demandent autre chose. Je l'ai senti sur les Gilets jaunes, où je me suis retrouvé sur le terrain le 8 décembre dernier, et j'ai passé beaucoup de temps, et tout le service reportage passe beaucoup de temps, à discuter avec les gens qu'on interviewe sur le terrain, beaucoup plus, en amont, en aval. Il faut leur expliquer notre métier, tout simplement. Leur expliquer que notre métier, c'est de faire des interviews avec un micro, ça s'appelle un média, et qu'après, notre métier, c'est de sélectionner des bouts d'interview en essayant d'être le plus neutre possible, comme vous l'avez dit, le plus représentatif possible. Il faut expliquer tout ça, leur parler de ce qu'on fait et prendre du temps. Et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément l'habitude de le faire tout le temps, dans toutes les circonstances avant, et cette crise des Gilets jaunes nous a montré ça. Passer du temps sur les ronds-points, on a été sur les ronds-points depuis 2 mois à France Inter, plusieurs jours, voir les Gilets jaunes, et il fallait, avant de brancher son micro, passer 30, 40 minutes à dire, ben voilà, nous on vient de France Inter, oui je viens de Paris, je travaille dans une rédaction c'est ça, le matin à 9h on a une conférence de rédaction, on a choisi de traiter ce sujet, puis demain on fera ça, et on peut pas passer, désolé, mais on peut pas passer 20 minutes de votre interview dans le journal de 19h, parce que le journal de 19h il ne fait que 20 minutes, donc notre travail c'est de monter les sujets, et il y a un vrai travail d'éducation, de dialogue à faire avec les gens avant et après. C'est-à-dire que quand on coupe le micro, il faut aussi sortir l'ordinateur et dire « Regardez, ça s'appelle un agra, là on va mettre la carte dans l'ordinateur. » Et puis vous voyez, ce truc vert que vous voyez sur l'ordinateur, ça s'appelle un son. Et là on coupe, on met un début, une fin. Et il y a un vrai travail de dialogue qui est très intéressant pour le journaliste lui-même et pour les gens évidemment qu'on interviewe.
Alors on va repartir au standard. Cette fois c'est Christelle qui est en ligne. Elle l'appelle de Grenoble. C'est bien ça Christelle ?
Oui, ça.
On vous écoute, Christelle.
Oui, du coup, je me posais la question par rapport aux chaînes d'information en continu, c'est-à-dire soit radio, telles que Radio France, ou soit les chaînes de télé. Il me semble, alors j'ai par ailleurs d'autres informations, des informations par d'autres canaux, hein, Presse Écrite et France Inter, mais je me demandais par rapport à ces chaînes d'information en continu, j'ai cette impression en fait qu'il faut créer le buzz, coller à l'information, et du coup qu'il y a peut-être un manque de hauteur d'analyse, voilà, et que parfois on en vient du coup à la caricature, au raccourci. Je suis souvent étonnée quand j'écoute, dans ma voiture, de ce que je peux entendre, voilà.
Merci beaucoup, Christelle. François Hernenwein, c'est quelque chose que vous avez mesuré dans votre enquête, les chaînes d'info continue, ce que les gens peuvent en penser par rapport aux autres médias ou...
Oui, enfin, la distinction est pas très fine. On n'a pas fait la distinction entre les chaînes publiques, les chaînes privées. C'est sûr que...
Vous l'avez fait pour la crise des Gilets jaunes, voilà, hein, sur oui, le traitement de cette crise-là.
Mais oui, mais je pense que le point de vue exprimé là traduit aussi une relation que de plus en plus de gens ont avec l'actualité. Au bout d'un moment, l'hystérisation dans le traitement de l'actualité, cette manière de mouliner sans cesse autour du même sujet... provoque une forme de rejet, et la demande est exprimée là très clairement, aidez-nous à déchiffrer le monde, à le comprendre. Une des fonctions des journalistes, c'est pour les auditeurs, téléspectateurs, internautes, lecteurs, de réduire leurs incertitudes. J'enseigne dans une école de journalisme, je me suis posé vraiment la question de ce qu'était l'essence de ce métier. Et moi je pense que la demande principale des gens... par rapport à l'information, c'est d'éclairer l'avenir tout proche, les aider à se guider dans leurs choix. C'est absolument pas leur dire de quoi penser. Quoi penser.
On s'arrête quand même deux secondes sur le traitement médiatique de la crise des Gilets jaunes, puisque vous avez fait votre enquête début janvier, donc vous avez pu mesurer quand même...
En pleine crise.
Voilà, en pleine crise. Globalement... Que vous disent les personnes que vous avez sondées, le tiers des personnes se disent satisfaites de la couverture de cette crise, 51% pensent qu'il y a eu une mauvaise couverture médiatique, c'est
oui,
ça?
Oui, mais ça va même beaucoup plus loin. Ils pensent qu'on a donné trop la parole à des positions extrêmes, majoritairement là aussi. En gros, ils pensent qu'on s'y est pas bien pris. Mais ils sont au cœur, leur réaction est intéressante de notre point de vue, parce que cette réaction signifie... qu'ils ne nous demandent même pas, comme certains gilets jaunes l'ont exprimé à certains moments, qu'on soit simplement les porte-parole des colères. Dans la réaction des gens sondés, il y a l'idée qu'on doit les aider à comprendre ce qui s'est passé. Ça a été évoqué tout à l'heure très bien. Dans médias, il y a une fonction de médiation entre ce qui se passe dans le monde et ceux qui reçoivent l'information. Et nous, on est des facilitateurs pour aider les gens à déchiffrer l'avenir tout proche.
Ne pas donner la parole forcément à des positions extrêmes, ça veut dire déjà faire des choix journalistiques. Christophe Delors, je dis ça parce que on a vu le succès de médias qui disent nous, on a du succès parce qu'on donne tout brut, de manière brute, et puis on ne traite pas l'information pour que les gens puissent vraiment faire leur choix.
Mais ça relève du pluralisme. Je crois que au-delà de la logique, je dirais du coup de gueule, de on se plaint des journalistes. Et qui est une logique qui va très loin. Et il y a une haine qui est montante. Vous avez parlé tout à l'heure d'hostilité, mais ça va plus loin. Y compris dans le sondage de la Croix, d'ailleurs, on voit que finalement, il n'y a qu'une minorité des personnes interrogées.
Absolument
hostile. On s'arrête sur ces chiffres, d'ailleurs, parce qu'ils sont quand même...
Il était absolument illégitime que des journalistes puissent être attaqués lors des manifestations. Mais donc, il y a une hostilité qui est très grande, qui peut parfois relever d'une forme de haine du pluralisme. On observe dans beaucoup de pays démocratiques, et y compris en France, une baisse non seulement une hausse de la critique, et parfois de la critique violente et virulente du journalisme, mais aussi une baisse de la croyance dans la démocratie, qui est avec une chute extrêmement forte. Si on regarde aux États-Unis, pour dire que ça n'est pas un phénomène spécifiquement français, il y a seulement Si on regarde le pourcentage de la population en fonction des tranches d'âge attachées à la démocratie, il y a à peu près 3 fois moins des gens nés en l'an 2000 qui considèrent que c'est vraiment essentiel de vivre dans une démocratie que des gens qui ont 90 ans. Et puis, tout l'éventail entre deux. Donc, on est dans une situation politique globale où il y a une récusation de certains fonctionnements de systèmes auxquels s'ajoute sans doute... une partie du public peut être fondée à penser qu'il y a des biais, qu'il y a eu des tabous, à droite comme à gauche, qu'il y a une forme de négativité. Et tout ça accumulé, là, en ce moment, est en train de coaguler avec des critiques une nouvelle fois très contradictoires, parce que même le traitement médiatique, au fond, on entend des critiques totalement contraires, y compris sur les chaînes Tout Info, et dont il faut signaler qu'au moment où elles sont le plus critiquées, c'est précisément à ce moment-là qu'elles sont aussi le plus regardées.
Est-ce qu'il n'y a pas eu une forme, pour les Gilets jaunes, une forme de culpabilisation des journalistes vis-à-vis de populations auxquelles elles n'avaient peut-être pas suffisamment donné la parole avant ? Est-ce qu'il n'y a pas eu ça aussi ? Qui veut répondre ? Philippe Randet ?
C'est difficile de répondre parce que c'est un mouvement qui est... qui a été extrêmement et qui est toujours extrêmement compliqué à couvrir. Hein. Il faut revenir au mois de novembre. Moi, je me souviens au service reportage de France Inter, on nous parlait de ces Gilets jaunes, on ne savait pas qui étaient ces Gilets jaunes. C'est-à-dire que nous, en tant que journalistes, on a l'habitude d'avoir des interlocuteurs, des attachés de presse, des gens. Et là, on s'est retrouvés, moi je me souviens très bien, devant cette carte, cette première carte sur Facebook, avec des ronds-points, et on ne savait pas qui appeler. On appelait quelqu'un dans l'heure pour avoir le 06 de machin, qui connaissait machin, mais on savait pas s'il allait être sur le rond-point, mais peut-être que l'autre personne y serait. Donc ça a été très compliqué. Et puis petit à petit, on a décidé d'aller sur les ronds-points, de passer du temps avec eux. On a après invité certaines personnes qu'on pensait être des porte-parole des Gilets jaunes en direct. Et puis après, on s'est aperçu que dès qu'il y avait un porte-parole des Gilets jaunes qui venait en direct, il était repoussé par la base en disant « mais non, il va dans les médias, donc c'est plus un porte-parole ». Donc on s'est adapté au quotidien. Et c'est pas simple
c'est
de s'adapter
simple de
au quotidien.
C'est pas simple de naviguer à vue, hein, quand on... Évidemment, quand on commence sur un sujet comme celui-là. Flavien est dans le Val d'Oise et il est au téléphone. Bonsoir Flavien.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à vous, on vous écoute.
Oui, ma question est de savoir comment on peut être certain de la neutralité des médias quand on sait que certains sont dirigés par des grands hommes d'affaires comme Vincent Bolloré, enfin je me permets, qui possède Canal+ et iTélé. Et qui est très controversé comme personne, notamment quand on touche à son image ou à celui de ses amis ou de ses collaborateurs.
Merci beaucoup Flavien pour cette question tout à fait légitime de l'indépendance des médias. Christophe Deloire de Reporters
sans frontières.
C'est d'ailleurs
une question que Reporters sans frontières a beaucoup portée. On a publié il y a quelques années un rapport qui était intitulé « Médias, les oligarques font leur shopping ». Et c'est d'ailleurs il y a une forme là de spécificité française. Si on regarde une bonne partie des pays européens, les groupes de médias, y compris dans des pays où il y a une concentration plus forte, mais ces pays sont mieux classés dans le classement mondial de la liberté de la presse que nous publions. Et la France est 33e, ce qui est pas formidable. Mais parce que c'est des pays dans lesquels il y a moins de conflits d'intérêts. Il y a moins de concentration avec des risques de conflits avec d'autres secteurs de l'économie. Alors, il faut pas renvoyer tous les propriétaires dos à dos. Il y a des propriétaires qui interviennent peu. D'autres, comme Vincent Bolloré, qui malheureusement... à plusieurs reprises, a fait la preuve de ses interventions et de la mise au pas de ses rédactions. Et ça porte atteinte, je crois que c'est un élément très important qui est souvent évoqué par tous ceux qui critiquent les journalistes. C'est un élément fondamental parce que ça jette une ombre sur ce qui est sans doute l'utilité sociale du journalisme et son utilité sociale. Alors, c'est pas d'être neutre parce qu'il n'y a pas de neutralité, personne n'est neutre. C'est d'être honnête. Et le journalisme, finalement, je crois que ce qu'il définit, c'est une procédure, le journalisme, de collecte et diffusion de l'information. Et la question, c'est quelles que soient les visions du monde, et il faut qu'il y ait des visions du monde diverses et qu'on soit dans un système pluraliste, mais qu'à chaque fois, cette procédure, elle prévoit le respect de règles déontologiques, la mise en œuvre de méthodes de vérification et un cadre d'indépendance. Et donc, sécuriser l'indépendance, c'est un élément essentiel parce que c'est ce qui fait des journalistes, des tiers de confiance. C'est ça leur utilité pour les sociétés.
François Hernandwein, toujours par rapport à votre enquête, le baromètre quant à Sofresse, 3/4 des personnes interrogées estiment que les journalistes ne sont indépendants ni du pouvoir politique, ni des pressions de l'argent. 69% pensent qu'ils ne résistent pas aux pressions des partis politiques et du pouvoir. C'est des chiffres constants ou c'est pire cette année?
Je l'évoquais tout à l'heure, c'est une constante dans ce baromètre. sur les 32e éditions, on a des chiffres comparables. Si on regarde les courbes dans la durée, elles se ressemblent étrangement. Alors, on peut dire deux choses. Il y a une forme de projection dans... Enfin, il y a peut-être un peu une idée fausse, parce que Christophe le disait très justement tout à l'heure, même dans les groupes de presse, propriétés de grands industriels, etc., les rédactions se sont organisées pour résister aux pressions de leurs actionnaires. C'est plus ou moins facile, mais en tout cas, elles résistent. Et aujourd'hui, vous lisez les journaux, vous voyez bien cette capacité de résistance. Mais il faut poser la question, à mon avis, de manière inverse. Pourquoi est-ce que ces grands industriels, qui vivent la plupart d'entre eux de la commande publique, choisissent d'investir dans la presse? Parce que c'est pas pour gagner de l'argent. La rentabilité dans la presse, c'est 1-2%.
Oui, il y a des choses qui rapportent plus.
Voilà, donc ils pourraient beaucoup mieux faire. Ça, c'est la première remarque. Donc, ils viennent chercher quelque chose qu'on peut appeler de l'influence quand on est bien élevé. Mais l'influence, concrètement, ça veut dire avoir un bras de levier dans les discussions avec le pouvoir politique, celui qui passe les commandes publiques. Donc, il n'y a aucune innocence dans cet investissement de grands investisseurs, précisément dans la presse. Et ça, les Français, à travers le sondage, disent quelque chose qui est tendanciellement pertinent. Mais j'ai commencé mon propos en disant quand même que les rédactions avaient des pratiques de résistance par rapport à ces actionnaires.
On part à Marseille, où nous attend Sylvain. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir.
Bienvenue à vous.
Merci. Alors voilà, moi je vous appelle pour justement affirmer mon total soutien à l'ensemble des médias et des journalistes, car je trouve ça déplorable, la façon dont vous êtes traités aujourd'hui. Je suis assez surpris que grand nombre de gens, dont des proches à moi, préfèrent faire confiance à des pseudo-informations qui circulent sur les réseaux sociaux plutôt qu'à des journaux, des radios comme France Inter, Le Monde, France Culture ou autres. Et il y a aussi autre chose. Je me sens plutôt à gauche et proche de certains partis politiques qui aujourd'hui participent à cette défiance envers les médias. Et je suis écœuré que certains responsables politiques et certains élus participent à cette défiance. Donc voilà, je voulais vous afficher mon soutien et vous remercier pour le travail que vous faites de décodage au quotidien.
Écoutez Sylvain, moi j'ai qu'un mot, hein. Merci, franchement, ça fait chaud au cœur, Philippe Rendé, quand on entend Sylvain.
Oui, bien sûr, bah, vous savez, le métier de... Moi, je suis pas un analyste, je peux vous parler du métier de reportage. Le métier du reportage, bien sûr, hein, parce que c'est un métier qui prend beaucoup d'énergie. On fait un superbe métier d'aller sur le terrain tous les jours, d'aller voir des gens qui nous racontent leur vie, de reporter leur vie. C'est magnifique et en même temps, c'est très exigeant. C'est très exigeant de se retrouver le matin avec un SDF pour faire un reportage sur un trottoir et puis l'après-midi de se retrouver avec un homme politique sur un autre sujet. C'est extrêmement exigeant. Et c'est vrai que c'est compliqué, que ça demande beaucoup d'énergie, mais on essaye de le faire du mieux possible, vraiment, vraiment. Et on essaye de réfléchir à ça au quotidien, même si parfois on se trompe, évidemment, et j'ai envie de dire heureusement.
François Hanenwein, peut-être que vous vouliez réagir par rapport à la deuxième partie de ce que disait Sylvain sur la responsabilité des politiques.
Il y a un point, en tous les cas, dans ce qui vient d'être dit à l'instant, qui me passionne. La tension chez la plupart des journalistes, quand ils rencontrent des gens, quand ils retranscrivent ou transmettent des propos, c'est une attention presque maladive de ne pas les trahir. Moi, quand je travaille, ça me hante, ça. Est-ce que les gens que j'ai vus, j'ai trahi leurs propos dans l'interprétation que je fais de ce qu'ils m'ont dit il y a une heure, deux heures ou une journée? Et cette question, elle hante, à mon avis, beaucoup plus que le grand public ne le croit, les rédactions. Ne pas trahir.
Il y a une conscience professionnelle, on est bien d'accord. Christophe Deloire, sur la responsabilité des politiques, comme l'évoquait Sylvain.
Ben, elle est imminente et c'est extrêmement dangereux. Si on regarde ce qui s'est passé dans d'autres pays, et notamment dans d'autres pays européens, les propos violents de responsables politiques de premier plan finissent par affaiblir franchement le journalisme. Et soit mène à des politiques institutionnelles qui visent vraiment à restreindre le pluralisme, la liberté du journalisme, et donc à la fin le droit à l'information de l'ensemble des citoyens, soit prépare le terrain pour tous ceux, extrémistes, mafias, hommes de main, qui veulent à un moment ou à un autre s'en prendre au journalisme. Et ce que disait Sylvain était extrêmement intéressant, et François a fait une profession de foi absolument très belle sur l'exigence journalistique et la conscience professionnelle. sans doute comme dans toutes les professions, elle n'est pas partagée par tous, mais elle est très forte, c'est vrai, elle est très puissante, cette conscience professionnelle. Et on se retrouve aujourd'hui dans cette situation où ceux-là même qui critiquent les médias vont effectivement vers des sites, vers des réseaux sociaux sur lesquels l'information, pour le coup, relève soit de la publicité déguisée, soit de la communication, soit de l'opinion pure, soit de la propagande. Et quand on regarde bien, supposons, si on regardait de Mars, et qu'on regardait le paysage médiatique, y compris en France, ben au fond, une bonne partie de ce que font les rédactions, c'est franchement pas ce qu'il y a de pire dans le champ de l'information.
Peut-être qu'il faudrait mieux expliquer, effectivement, comme le disait Philippe Rondet, en quoi consiste le travail, ce serait important. On repart au standard de France Inter. Cette fois, c'est Philippe. Philippe, bonsoir, je ne sais pas d'où vous appelez, si de Savoie ?
Oui, de Haute-Savoie, plutôt.
De Haute-Savoie, pas se tromper, là.
Ce que je reproche, c'est pas les journalistes, c'est les intervenants économiques. On voit toujours les mêmes, que ce soit à la radio, qu'on les écoute à la radio, qu'on les voit à la télévision. Dominique Zeu, Emmanuel Le Chypre, l'Anglais, Dessertine, Elie Cohen, etc., Nicolas Dose. Il y a une espèce de doxa libéraliste, hein, et on n'a pas de contre-pouvoir. Avant, à France Inter, il y avait malheureusement Bernard Marie, hein, qui n'est plus là. Mais je pense que ça doit jouer quand même un certain rôle dans ce que les gens n'ont plus confiance dans ce que disent les journalistes.
Je suis d'accord avec vous, Philippe. Notre Bernard Maris est irremplaçable. Ça, là-dessus, on est bien d'accord. Il nous manque, et c'est vrai qu'ils sont pas très nombreux à forcément partager son point de vue. Christophe Deloire, c'est important, mais au moins Philippe a fait la distinction entre ce qu'il dit, il appelle les journalistes, et puis ceux qui nous disent comment il faut penser en matière économique.
Oui, les journalistes ou tous ceux qui parlent dans les médias, d'abord, doivent absolument distinguer les types de fonctions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il arrive de voir sur certaines chaînes des débats dans lesquels, si on ne connaissait pas a priori les gens, on aurait du mal à distinguer les responsables politiques des journalistes. Parce qu'ils débattent ensemble en affichant le même type de propos, même s'ils peuvent être très opposés. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Le rôle des politiques, c'est d'aller convaincre et de prendre des décisions. Le rôle des journalistes, c'est de rapporter des faits honnêtement, en mettant toutes ces procédures d'établissement de la vérité en œuvre et en ne s'autorisant jamais, en n'ayant jamais la prétention de penser que notre avis de journaliste vaut plus que l'avis de n'importe qui. Et sur les questions économiques, et c'est une préoccupation très forte, les questions économiques, sans doute que pendant longtemps, les journalistes, et là je parlais des faits sociologiques, ont été moins attentifs qu'une partie de la population, en tout cas l'ont moins perçu, aux effets de la mondialisation. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas le risque qu'un journaliste polonais se substitue à un journaliste quand il y a une telle nécessité d'usage de la langue. Et donc on doit, en tant que journaliste, non seulement mettre en place des procédures d'honnêteté pour statuer sur tel ou tel fait, mais en plus mettre d'autres procédures d'honnêteté simplement pour se départir de nous-mêmes, de notre place dans la société et pour aller regarder de lieux très différents et de personnes très différentes.
Varier les points de vue, François Hernandwein, et puis bien distinguer le récit, les faits et le commentaire.
Oui, mais c'est là, ce que vous faites à la Croix. On l'a bien vu dans la liste, oui, sans doute, peut-être.
Oui, pas mal.
Mais dans la liste de notre auditeur, il y avait des gens qui étaient journalistes, des gens qui ne l'étaient pas. Là, il y a aussi une forme de confusion, mais au fond, la question, elle a été évoquée par Christophe tout à l'heure, dans les démocraties avancées, il y a une pluralité d'offres. Je mets au défi l'auditeur de ne pas trouver dans la pluralité des offres des gens qui écrivent sur l'économie en phase avec ses préoccupations. Donc c'est aussi aux citoyens consommateurs d'informations de regarder l'ensemble du paysage et de choisir les titres qui correspondent plus intimement à ses convictions.
Philippe Rendet, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, c'est intéressant cette différence entre les éditorialistes, les intervenants et les reporters sur le terrain. Et en même temps...
Vous êtes obligé, vous, sur le terrain, de dire « je suis pas Dominique Seux, je vous demande ça » parce que c'est vrai que souvent, c'est ce qui revient.
Oui, on nous parle souvent des mêmes. Il y a aussi les humoristes, etc., etc. Mais on fait partie d'un collectif. Quand on travaille pour France Inter, on travaille pour une radio. Et évidemment, ces gens-là font partie de la même équipe que nous. Et c'est important. En même temps, ces critiques, il faut le préciser quand même, on les entend depuis longtemps, hein. Moi, je me souviens de manif anti-CPE, de Notre-Dame-des-Landes, où on me disait « Ouais, France Inter, vous êtes un média de droite », de la manif pour tous, où on me disait « Ouais, France Inter, vous êtes des gauchistes », d'aller faire un reportage au Stade Vélodrome avec les supporters de l'OM « Ouais, France Inter, vous êtes un média de Parisien ». Donc voilà, on a l'habitude aussi, et ça fait partie de notre métier, entre guillemets, d'être, je sais pas comment dire, un réceptacle des tensions du pays, tant que ça reste évidemment dans le calme, parce qu'à partir du moment où il y a des agressions, ça se complique, mais surtout, voilà, il faut du temps, il faut parler avec les gens, continuer à parler avec les gens.
Mais c'est vrai, je confirme qu'on nous dit aussi bien vous êtes de droite que vous êtes de gauche. Évidemment. François Hanenwein.
Par rapport aux attentes des gens qui s'informent, il y a une question qui est assez essentielle. La garantie pour eux, c'est la distance journalistique. C'est-à-dire qui postule qu'on est capable de faire honnêtement notre métier. Mais ça se retourne en exigence à leur égard. Ils ne peuvent pas attendre de nous qu'on soit exactement les porte-voix de ce qu'ils expriment à un moment donné.
Je vais vous redonner la parole à tous ces premiers jurés, mais je voudrais qu'on aille au standard parce que Marie nous attend depuis un petit moment. Marie de Paris, bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel. Et vraiment, je suis contente d'entendre ce que disent vos invités. Juste un peu, je voudrais témoigner de mon agacement, en réalité, parce que je suis lectrice de la presse écrite, j'écoute les radios, toutes les radios. J'achète des journaux depuis très très longtemps. Et puis au fond, je suis gênée maintenant, et au point de couper la radio, de ne plus acheter le journal et de zapper tout ce qui peut être zappé dans le déferlement d'informations qu'on reçoit dans nos boîtes mail tout le temps. Agacée à la fois par des grands comportements et par des petits détails. Autrement dit, ce qui me gêne, c'est moins les principes évoqués par tous vos invités que la réalité des comportements et la réalité des pratiques journalistiques. Par exemple, dans les petits détails des articles dans la presse web, je suis extrêmement agacée qu'on commence par me donner le temps de lecture de l'article avant de s'intéresser au fond. Je suis profondément agacée dans la presse orale, cette fois-ci, qu'elle soit à la télévision ou à la radio, par ces journalistes qui coupent la parole dès qu'un invité essaye de faire une phrase de plus de deux propositions. Parce que comment voulez-vous que les gens expriment une pensée un peu nuancée si on leur coupe la parole tout le temps ? C'est le contraire de l'information. Puis j'étais un peu agacée aussi, pardon de vous le dire ici, cet argument qui consiste à dire que si le lecteur ou l'auditeur ne comprend pas, c'est parce qu'on n'a pas fait assez de pédagogie. Le lecteur n'est pas un imbécile. Et au fond, un des problèmes, je crois, c'est qu'il y a une sorte de fonctionnement, en vase clos, en circuit fermé de la presse, avec ou sans collusion avec les milieux politiques, économiques, c'est pas le problème, qui fait qu'on a un peu l'impression que finalement cette information déferlée sur un public qui est prié de l'entendre et s'il l'entend passer, sa faute, témoigne plus d'une forme d'arrogance que du souci d'information. Pardon de la brutalité de métropole, mais en poussant au bout la réflexion, c'est assez bien.
Merci Marie pour ces remarques. Christophe Deloire.
Je crois que la question qui se pose à nous tous, et pas seulement aux journalistes, mais vraiment à l'ensemble des citoyens, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Un, on est dans une crise de l'espace public. En tant que consommateurs, nous avons tous accepté que l'organisation de la place du village soit déléguée à des plateformes numériques, américaines aujourd'hui, pourquoi pas chinoises demain, auxquelles nous n'avons pas fixé d'obligations démocratiques. Il y a tout un travail de reconstruire dans cet espace globalisé de l'information des garanties démocratiques. Parce qu'aujourd'hui, juste dans l'histoire des démocraties, notamment en France depuis la libération, il y a un certain nombre de garanties démocratiques sur la fiabilité de l'information, son honnêteté, son indépendance.
C'est aux journalistes de s'occuper de tout ça.
Alors ça, c'est pas les journalistes, ça revient à tout le monde. C'est un sujet pour tout le monde. C'est certainement pas un sujet corporatiste. Mais ce droit des médias très invisible pour le grand public, mais qui apportait des garanties. Et elles ont été balayées. Donc comment on reconstruit ce système de garantie ? Deux, quelle réflexion on a sur le journalisme ? Sur ses pratiques, sur ses présupposés ? Comment on fait pour sortir de logiques d'abord événementielles et parler plus des situations et des évolutions, y compris des évolutions qui ne se voient pas ? Mais sur tous les sujets, c'est extrêmement compliqué, y compris pour les journalistes. Par exemple, sur les questions économiques, il est incomparable. Alors, on reproche parfois aux journalistes de défendre une forme de système libéral. Mais en même temps, mécaniquement, les journalistes parlent plus des licenciements que des créations d'emplois, puisqu'il est plus facile de parler des fracas, des trains qui n'arrivent pas à l'heure, Mais même ce principe-là, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas y réfléchir? Moi, je suis convaincu qu'il faut y réfléchir. Je lisais récemment les chiffres d'un jeune économiste allemand qui disait, qui évoquait une forme de négativité générale dans le principe. Et qui disait, au fond, depuis 25 ans, les journaux auraient pu tous les jours, et de manière parfaitement légitime et pertinente, dire hier, 137 000 personnes sont sorties de l'extrême pauvreté. Et donc, nos représentations du monde, la manière dont on les structure, elles sont structurées par nos lois, donc c'est aussi des décisions collectives, c'est un sujet qui mérite aujourd'hui d'être...
Donner des informations positives, on est tout à fait d'accord, et ça se fait dans certaines émissions. On a une rubrique qui s'appelle « Les bonnes ondes » sur France Inter, le vendredi soir. Philippe Randet, aujourd'hui, la priorité pour vous ?
Bah, continuer à aller voir les gens, prendre du temps, encore plus de temps, et France Inter, on a de la chance, nous en donne, hein, tous les matins. On a un format à 7h15 dans le prime time de la radio, où on a 3 minutes 30 de reportage, où on peut prendre du temps, écouter les gens, voilà, continuer à leur parler. Et juste un petit mot sur l'entre-soi. Beaucoup de gens nous disent « Ouais, vous êtes tous des Parisiens, vous êtes tous riches ». C'est pas vrai. Voilà, au service reportage de France Inter et dans tout France Inter, on n'est pas parisien, on est arrivé, on était au collège, au lycée, dans des régions rurales, dans cette France périurbaine, et puis on a fait des études. Voilà, moi j'avais jamais rencontré un journaliste avant de faire mon premier stage à Radio France, et puis voilà, on se retrouve tous là, et on est en phase avec cette France, et il faut continuer à aller les voir, continuer à discuter, et voilà, ouais.
Ne pas oublier d'où on vient, et puis ne pas oublier de parler de toutes ces fractures qui existent dans ce pays, parce qu'on les connaît,
on essaye de donner la parole à tous ces gens. Après, on la donnera jamais assez et les gens seront jamais complètement satisfaits de ce qu'on fait, mais ça fait partie de notre métier.
François Hernandwein, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin au nom de la Croix. Bah oui, c'est vous qui avez fait cette étude qui nous amène tout cela aujourd'hui. La priorité des priorités pour vous aujourd'hui.
Bah, c'est commencer à se poser des questions en entendant ce que disait le sondage. Ça me paraît être quand même, avec la tendance baissière, une sorte d'alerte adressée aux médias, ça c'est un point. Entendre les reproches, et puis essayer de corriger éventuellement nos errements. Mais il y a un point essentiel, et on l'a fait ce soir grâce à vous, c'est faire de la pédagogie sur notre métier, expliquer comment est-ce qu'on travaille. Si les gens comprennent comment on travaille et quelles sont nos motivations, les choses iront beaucoup mieux.
Voilà, et puis effectivement, bien dire aux auditeurs, aux lecteurs, aux téléspectateurs, que on réfléchit. Tous les jours, il y a des conférences de rédaction, tous les jours, on se pose des questions et on se pose des questions sur les choix qu'on peut faire. Voilà, ça fait partie du boulot aussi. Un grand merci à tous les trois d'être venus ce soir, François Hernandwein, Christophe merci. Deloire, Philippe Randet. C'est la fin de ce téléphone sonne. Merci à vous tous qui nous avez appelés. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer ce 18-20. À la technique ce soir, Patrick Henry, Philippe Duclos, Charles Pélabon. Merci aussi à June Loper, à nos standardistes et à la documentation d'actualité. Après les infos, vous retrouverez Laure Adler, Laure Bleue.